France Culture.
C'est une étude et un chiffre saisissant mis en lumière par la Fondation Jean Jaurès. Au cours des 15 prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesses de son histoire contemporaine. Plus de 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenus par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Dans ce contexte où les inégalités de patrimoine ont rarement été si fortes dans notre pays, comment penser la question de l'héritage, sa légitimité même d'abord, son organisation fiscale ensuite? Pour en discuter, pour en débattre, même deux invités ce soir. Mélanie Plouvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en philosophie sociale et politique à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes l'autrice du livre paru il y a quelques semaines intitulé « L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine ». C'est aux éditions La Découverte. Face à vous, Thierry Aymard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Lorraine, membre du laboratoire Beta. Vous êtes l'auteur en 2022 aux éditions de l'Aube de cet ouvrage intitulé « La société de la régression, le communautarisme à l'assaut de l'individu ». Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Je me présente, maître Larieux. J'ai donc été chargé du testament de votre mère, à tous les trois, madame Josette Marie Désirée Latour, artiste de son état, décédée le 14 février 1993 à l'hôpital de Santa Ana, Houston, Texas, USA. Testament concernant les présomptifs héritiers qui sont monsieur Bernard André Michel Latour, né de madame Josette Latour et de père inconnu. Monsieur Didier Jean-Marie Latour, né de madame Josette Latour et de père inconnu. Monsieur Pascal Jésus Peseb Latour, né de madame Josette Latour et de père inconnu.
Oui, c'est moi.
Compte tenu de votre manque d'exactitude, je vous propose donc de remettre cette procédure à une date ultérieure. Je vous propose donc un nouveau rendez-vous le jeudi 15h. Précise.
Non, je peux pas. Non, je peux pas.
Moi non plus, je peux pas.
Je peux pas.
Bon, écoutez, il va falloir trouver une solution parce qu'il y a quand même un tas de papiers à signer. Il s'agit d'une somme de 3 millions de francs, n'est-ce pas? Il y a des tas de procédures.
Pardon, une somme de 3 millions.
Nouveau, de francs.
3 257 872 francs nouveaux.
Le rendez-vous, c'est...
Jeudi, 15h.
Je peux, je crois.
Oui, je peux.
Et ben voilà.
Et on a voulu tout de suite placer la barre très très haut avec cet extrait des Trois Frères signé par le trio des Inconnus. Le film est sorti en 1995. La scène fait rire, mais raconte tout de même ce que charrie cet imaginaire de l'héritage, cet imaginaire lié anthropologiquement à la famille, aux liens de parenté, aux liens entre les frères et les sœurs, évidemment à la question de l'intimité. Est-ce que c'est pour cela, Mélanie Plouvier, et notamment pour cela que la question de l'héritage en politique est une question taboue?
Alors, ce que montre bien cet extrait, c'est le caractère d'arbitraire. Finalement, ils pensaient hériter de peu, il s'avère qu'ils héritent de beaucoup. Il y a comme un hasard, une loterie, qui d'un seul coup les fait héritiers fortunés. Alors, c'est effectivement les liens intrinsèques que l'héritage entretient avec la famille, la propriété privée, voire même la motivation au travail. Mmh. Ce sont ces liens intrinsèques qui en font comme une question... tabou. En tout cas, je crois que ce que nous n'interrogeons pas, c'est l'évidence que revêt pour nous la transmission familiale du patrimoine. Le fait que le patrimoine doive rester au sein de la famille. Et ce qui est très intéressant quand on emprunte le détour du dépaysement géographique ou de l'histoire des idées, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et il y a eu, par exemple, des moments, comme le 19e siècle que j'étudie dans l'ouvrage, des moments où ce qui est pour nous une évidence n'allait pas de soi.
Pourquoi on a cessé justement de penser cette question de l'évidence, de la légitimité même de l'héritage? Quand est-ce qu'on a cessé de penser, tout simplement?
Alors, c'est toujours difficile de faire une histoire comme ça au long cours, mais vraisemblablement, la régression du poids de l'héritage au cours du XXe siècle, grâce à la mise en place d'une fiscalité fortement progressive, a rendu moins nécessaire l'interrogation sur les transmissions, dans la mesure même où ces transmissions pesaient moins dans la constitution du patrimoine.
Je le redis, Thierry Marre, on va avoir, au cours des 15 prochaines années, on va connaître le plus grand transfert de richesses de notre histoire contemporaine. Et dans le même temps, on entend très très peu les responsables politiques se saisir de cette question, alors même que c'est un levier majeur pour réduire les inégalités. Comment est-ce que vous expliquez, là encore, j'allais dire, je reviens sur ce terme-là, mais ce tabou politique?
Écoutez, les questions d'héritage, c'est un petit peu l'affaire Dreyfus, hein, retransportée finalement au XXIe siècle, c'est-à-dire c'est un sujet de tension sociale. Et c'est presque un sujet aussi de dissonance cognitive. Alors, évidemment, on vient de le dire, au cœur de cette histoire se trouve le concept de famille. Et donc, évidemment, la famille aujourd'hui, il y a toute une mythologie, si j'ose dire, de la famille, puisque donc on est en crise, la famille s'est considérée comme une valeur refuge, il y a beaucoup de mystiques autour de ça, et donc évidemment, la transmission, elle se fait à travers la famille. En même temps, on trouve ça terriblement normal, et en même temps, quand on y réfléchit à deux fois, l'héritage, les donations infrafamiliales, ça repose sur quelque chose qu'on n'aime pas en France, véritablement, c'est la notion de privilège. Parce que donc, on est tous d'accord en France pour dire qu'il n'y a pas de privilège de fonction, ça doit être aboli, on a fait des révolutions pour ça. Il n'y a pas de privilège de titre, il n'y a pas de transmission héréditaire de fonction, de prise de pouvoir. On se succède pas au pouvoir de père en fils.
On n'a plus de privilège politique, mais on a encore du privilège économique.
Exactement. Et donc ça, je pense que quelque part, le cerveau le sait. Et donc, il y a une sorte de gêne, en fait, quand on aborde ces questions, parce que justement, ça fait partie de nos contradictions sociales. C'est-à-dire que tout le monde, et nous sommes un pays qui est très, très sensible aux questions d'inégalité. Lorsqu'on a des discussions de son famille sur l'inégalité, c'est toujours les inégalités de revenus. On va dire, oh là là, le footballeur est trop bien payé, l'infirmière n'est pas assez bien payée, l'institutrice non plus. Mais en fait, il n'y a jamais de débat sur les inégalités de patrimoine. Alors qu'en fait, le principal facteur d'inégalité, c'est bien ça. C'est l'inégalité des patrimoines. Mais comment aujourd'hui on constitue des patrimoines? Comment on en bénéficie? Par héritage ou par donation? Évidemment, donc c'est un sujet de fracture sociale parce que tout le monde n'a pas évidemment des parents ou des grands-parents qui sont susceptibles de redistribuer de l'argent vers soi.
Mélanie Plouvier.
Si je peux ajouter une dimension, il y a quand même aussi un construit politique. Ces représentations ne viennent pas de nulle part. Et en particulier, le mouvement anti-taxe qui s'est forgé aux États-Unis a pris pour première cible la fiscalité successorale qui s'est trouvée requalifiée comme taxe sur la mort. Éric Ciotti, récemment, a dit combien cette taxe, l'impôt sur les successions, lui paraissait illégitime en tant qu'elle constitue, cette fiscalité constituait une taxe sur la mort. Dans cette idée de taxe sur la mort qui nous vient des États-Unis, il y a vraiment l'idée que à la douleur engendrée par la perte d'un mort viendrait s'ajouter la confiscation par l'État. On parle dans les requalifications du mouvement anti-taxe, l'impôt sur les successions se trouve aussi requalifié comme taxe sur la vertu. La vertu serait entièrement du côté de l'épargne. Et peu importe finalement qu'il y ait assez peu de vertu à se trouver possesseur d'un patrimoine pour lequel on n'a pas travaillé. Donc il y a quand même aussi une série de requalifications, on va dire politiques, qui ont contribué à cette, on va dire, naturalisation de la transmission familiale du patrimoine.
Oui, mais dans le même temps, l'autre grand mystère sociologique, Thierry Marre, c'est que ce sont sans doute les ménages les plus modestes qui sont contre la taxation de l'héritage, contre la taxation des successions. C'est ce que montrent à peu près toutes les études, tous les sondages d'opinion, alors même qu'on dit parfois qu'un tiers des individus français ne touche pas d'héritage, qu'un tiers en touche très peu et qu'un tiers en touche d'une manière conséquente. Il faut nous expliquer ce paradoxe apparent.
C'est un paradoxe apparent, comme vous dites bien. Alors, il y a bien sûr des raisons cachées. Alors, la première, c'est que finalement, même ceux qui ont un faible patrimoine, bizarrement, l'on constitue avec plus de douleur et plus d'efforts que ceux qui sont plus riches. Et donc, ils sont beaucoup plus attachés, finalement, à cette gestion d'un faible patrimoine et à leur liberté de pouvoir, évidemment, le céder à qui ils veulent. Premier élément. Deuxième élément, ça, c'est une dimension presque neurale, si j'ose dire, du problème, mais ça nous renvoie à la philosophie. Le philosophe Pascal, dans Les Pensées, il y a une citation assez fascinante de mon point de vue. Il nous explique que notre bonheur présent, notre sentiment de satisfaction présente, dépend de quoi ? De notre représentation d'un bonheur à venir. D'accord ? On vit dans le futur. Et ce qui nous permet de tenir dans le présent, c'est une vision presque fantasmée de notre futur.
C'est ce qui nous motive dans le travail, dans la
voilà, c'est ce qui nous fait tenir, parce que donc toute la journée, on travaille, donc c'est un peu une douleur, mais comment ça se fait qu'on soit pas dépressif, malgré le fait qu'il y ait peu de moments de joie quotidien, c'est qu'on pense que demain, ça ira mieux. D'ailleurs, ça nous renvoie au débat sur les retraites. Beaucoup de gens fantasment sur les retraites, et quand on attaque les retraites, parce qu'ils fantasment finalement cette situation future, qu'ils envisagent comme une situation idyllique par rapport à aujourd'hui. Donc, on vit avec des notions de gain de satisfaction. Or, nos sociétés, finalement, permettent à tout le monde aujourd'hui d'espérer être millionnaire, ne serait-ce qu'à travers des jeux de hasard. Il y a des dizaines de millions de gens qui jouent chaque jour à l'euro-million, chaque semaine à l'euro-million.
Mais donc vous êtes en train de nous dire que des millions et des millions de gens font un très très mauvais pari sur l'avenir ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on vit beaucoup en pariant sur l'avenir, et donc on se dit que si demain j'ai effectivement quelque chose, j'aimerais effectivement pouvoir en disposer, et toute attaque, si j'ose dire, voire toute réforme sur la fiscalité, sur le droit successoral, est considérée d'abord comme très compliquée, donc c'est très compliqué à expliquer, donc ambiguë, rejetée par l'esprit, et jugée comme une forme d'attaque à un rêve. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, on refuse le débat là-dessus.
Mélanie Pouvier, si on pousse même les choses encore plus loin, on pourrait se dire que c'est totalement irrationnel. Si je ne bénéficie, si je ne touche aucun héritage, en revanche, si je taxe celui des autres, je me retrouve gagnant d'un point de vue purement financier.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit que de l'irrationalité. Je pense aussi que la question est posée d'une certaine manière.
Par les sondeurs, vous voulez dire.
Par les sondeurs, effectivement. Si la question est souhaitez-vous que vos enfants payent des impôts sur le patrimoine que vous allez leur transmettre, il y a de bonnes chances que la réponse soit négative. Mais c'est pas simplement une question de formulation. Je pense que c'est également une question d'horizon des possibles. En d'autres termes, et c'est ça que permet le détour par le 19e siècle d'enrichir les possibles, parce que à l'époque, d'autres destinataires de l'héritage étaient envisagés, d'autres usages de l'héritage étaient envisagés. Je vous donne un exemple. Si au lieu de vous poser la question, souhaitez-vous que vos enfants payent des impôts sur le patrimoine que vous allez leur transmettre? Si vous posez la question, préférez-vous que vos enfants, à votre mort, c'est-à-dire, parce qu'il faut prendre en compte cette réalité démographique aujourd'hui, quand ils auront 60 ans, reçoivent le patrimoine que vous avez accumulé, ou préférez-vous qu'ils reçoivent à 25 ans une dotation en capital égale, plus également distribuée? Bon, déjà, ça y est, on commence à réfléchir. Donc, vous voyez, il y a la manière dont la question est formulée, il y a aussi les possibles qu'on met en face de l'héritage. Et je pense que la manière dont nous naturalisons, la manière dont nous prenons comme nécessaire, ininterrogé, l'héritage familial vient du fait que nous n'avons pas d'alternative.
Si je pousse votre raisonnement jusqu'au bout, Mélanie Pouvier, vous nous disiez un peu plus tôt dans cette discussion, il faut penser même la légitimité de l'héritage en tant que tel. Est-ce à dire que vous-même, vous êtes, pour réfléchir à la question de l'abolition simple, pure, complète de cet héritage, de l'héritage?
Alors, je suis historienne des idées, je me suis plongée avec bonheur d'ailleurs dans le 19e siècle en me rendant compte du nombre, de la prolifération des réflexions de l'époque, et pas simplement académique, mais aussi politique, même littéraire, sur cette question de l'héritage. Ce qui est frappant, c'est qu'au 19e siècle, l'héritage était une question débattue, présente sur toutes les lèvres, et également une question, en tout cas une institution qui n'allait pas de soi. On n'hésitait pas à interroger la légitimité de cette institution, et d'ailleurs même chez les libéraux. Il y a une critique libérale dès le 19e siècle de l'héritage. Effectivement, quand on se tourne vers le 19e siècle, on voit un ensemble de théories. Alors, si on veut aller rapidement, on peut dire théorie abolitionniste. En ce temps qu'effectivement, ils sont favorables à la suppression partielle ou totale de l'héritage. Je qualifierais plutôt ces théories de... c'est des propositions pour socialiser l'héritage, c'est-à-dire pour penser d'autres destinataires que les seuls enfants, en particulier des entités collectives, les générations futures, les collectifs de travailleurs.
Pour le réfléchir en quelque
sorte. Pour le réfléchir et surtout pour réfléchir collectivement, délibérer collectivement sur ce que l'on pourrait faire ensemble de ces sommes. Et je reviens à votre chiffre de départ, 900 000 milliards d'euros.
C'est colossal.
Colossal. 900 000 milliards d'euros transmis d'ici 2040. La question est la suivante. Est-ce que nous souhaitons délibérer collectivement sur ce qu'il convient de faire de cet argent.
Thierry Aymar, j'allais dire, est-ce que vous pouvez pratiquement répondre à la question posée par Mélanie Pouvier ? Et au-delà, d'ailleurs, elle abordait tout à l'heure la question du courant libéral qui se positionne aussi sur la question de l'héritage. Et c'est vrai qu'il existe aujourd'hui dans le courant libéral français, dans le courant libéral d'ailleurs même international, une réflexion sur l'héritage qui consiste à dire il faut taxer l'héritage car il faut taxer la rente, l'inertie et que au fond, l'héritage, ce n'est pas de la création de richesse et de valeur.
Oui, bon, il y a une grande diversité du libéralisme hein, et donc tout le monde n'a pas la même position. Mais c'est vrai qu'il y a des fractures au sein du camp libéral là-dessus. Est-ce que c'est le camp libéral ? Il y a une fracture entre les conservateurs et peut-être les libéraux, si on résume ça peut-être de manière un peu plus simple. Donc c'est vrai. Alors bon, ma position c'est celle de l'économie, c'est-à-dire que, bah, évidemment, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique, on ne peut pas, je dirais, considérer comme normal, parce qu'on est dans une certaine famille, d'avoir droit à un revenu que le fils du voisin n'a pas.
En tant qu'économiste, alors ?
Alors, donc, de ce point de vue-là, en tant que, bon, sur le plan philosophique ou historique, bon, c'est compliqué de défendre ça. Alors, sur le plan économique, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Bah, à cause, évidemment, de cette chape idéologique qui est la famille. C'est-à-dire, quand vous expliquez aux gens qui ne vont pas pouvoir léguer leur patrimoine à leurs enfants, ils voient rouge. Que ce soit des petits revenus ou des gros revenus, ils n'acceptent pas cette idée.
C'est de l'économie, ça ?
Alors, justement, quel rapport avec l'économie ? Ben, en tant qu'économiste, mon problème, c'est quoi ? C'est développer l'investissement. D'accord ? On en a besoin. Et l'investissement se nourrit par l'épargne. Et donc, l'épargne, c'est quoi ? Ben, c'est le patrimoine, tout simplement. D'accord ? Le patrimoine, c'est de l'épargne accumulée. Alors, donc, la réticence de certains économistes à, finalement, aller plus loin dans les réformes sur la question de l'héritage, c'est la peur de décourager les gens à épargner, et donc de retirer un fonds d'investissement dans la collectivité. Donc c'est ça, d'un point de vue économique, qui constitue une réticence. Parce que d'un point de vue éthique, évidemment, on ne peut pas défendre l'idée d'un privilège de naissance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un problème, économique, ça c'est un problème philosophique, mais c'est, encore une fois, aucun libéral va vous dire, bon, bah, tu es né dans une certaine famille, tu as un certain droit de recevoir ça. Alors c'est là où il y a une ambiguïté, parce que donc les libéraux, quand ils traitent cette question, en tout cas un certain nombre, vont se focaliser sur la liberté de pouvoir donner ce qu'on veut. Si j'ai un patrimoine, je devrais pouvoir le donner à qui je veux. On ne situe jamais le débat de la justice de celui qui reçoit ce patrimoine et des inégalités dans des inégalités d'accès au territoire des opportunités.
On va revenir sur.
Je peux terminer juste sur cette question. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, donc la question un peu biaisée, notamment par rapport au droit français. Pourquoi ? Parce que le droit français, bizarrement, interdit la liberté de tester. Et d'un point de vue libéral, quand il y a des débats là-dessus, on s'attaque à la fiscalité, mais jamais à cette part réservataire qui pourtant, effectivement, est une insulte, quelque part, à la liberté de donner son patrimoine à qui on veut.
Je reviens juste un instant, Thierry Aymar, sur le raisonnement que vous venez de déplier sur la question de l'efficacité économique. Pour bien comprendre ce que vous dites, on aurait tendance à moins épargner parce qu'on n'aurait pas la capacité de léguer notre patrimoine à nos enfants ou à nos petits-enfants. Moi, par exemple, on peut se dire, après tout, on épargne pour nous-mêmes, on accumule de la richesse et on construit du patrimoine d'abord et avant tout pour soi-même. Pas nécessairement, j'entends, pour le léguer.
Eh ben, statistiquement, quand vous parlez effectivement aux gens qui accumulent un patrimoine, la famille, les enfants, ça va tout de suite arriver sur le terrain. On constitue un patrimoine pour pouvoir le léguer à ses enfants, ce qui est une manière évidemment de se prolonger au-delà de sa propre mort, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, la question est taboue aussi, pas seulement à cause de la famille, c'est la mort en fait, hein, qui est au centre du débat. Et donc, c'est aussi une manière presque mystique d'essayer de se prolonger en pensant que c'est ses propres enfants qui vont avoir ce patrimoine.
Mélanie Pouvier, vous bouillez intérieurement pour réagir, je vous en prie. La parole est à vous.
L'argument est ici centré sur l'épargne, l'investissement. Je voudrais ajouter, ou en tout cas pondérer par une donnée démographique. Aujourd'hui, on hérite en moyenne en pleine propriété à 60 ans. C'est pas le meilleur moment pour investir. Juste à titre de comparaison, en 1820, on héritait en moyenne à 25 ans. Ça change tout. Et je pense que
Racontez-nous ce que ça change, justement. Comment est-ce qu'on agit différemment à 25 ou 60 ans selon l'héritage que l'on touchera?
Prenez les personnages balzaciens. Les héritiers, ce sont des jeunes aristocrates, qui ont en moyenne 25 ans. Et le risque, c'est qu'ils dilapident la fortune parentale au lieu d'investir. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration. Les flux d'héritage sont des flux de personnes très très âgées vers des personnes âgées, ce qu'on pourrait appeler la séniorisation de l'héritage. Et ce que montre bien, par exemple, un économiste comme André Masson, c'est que les usages que l'on peut avoir de l'héritage à 60 ans, c'est ce qu'il appelle la crispation patrimoniale, hein. Ce sont des investissements peu risqués de court terme, qui en tout cas ne répondent pas aux besoins massifs d'investissement que nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, c'est de l'argent qui dort. Et juste pour là aussi, hein, prendre la mesure des sommes dont on parle, sur 14 000 milliards d'euros de capital privé net que compte la France, 60% sont détenus par des plus de 60 ans. Je voudrais ajouter un élément philosophique. Je pense que nous sommes effectivement dans une situation de dissonance cognitive. Parce qu'aujourd'hui, les héritiers, ce sont des personnes de plus de 60, majoritairement des personnes de plus de 60 ans. Ça ne veut pas dire, hein, que toutes les personnes de plus de 60 ans sont des héritiers, bien évidemment. L'héritier aujourd'hui est majoritairement une personne de plus de 60 ans. Mais dans la manière dont nous nous représentons l'héritage, tout un chacun. Quand nous pensons à ce qu'est un héritier, nous pensons à un jeune adulte. Nous pensons à nos enfants. Et quelle justification nous apportons ce transfert de patrimoine?
Il va pouvoir se lancer dans la vie.
Voilà. Le fait qu'il puisse commencer plus haut que nous avons nous-mêmes commencé. Sauf que aujourd'hui, l'héritage, ce n'est plus un point de commencement. C'est un point d'arrivée.
Je voudrais vous faire réagir sur ce point-là, Thierry Marre, sur la question justement de l'efficacité économique. Juste rappeler quelques chiffres, hein, pour qu'on mesure aussi la réalité de ce qu'est l'héritage aujourd'hui en France. Selon l'INSEE, 35% des transmissions portent sur moins de 8 000 euros, 62% sur moins de 30 000 euros, et ce sont seulement 15% des successions qui dépassent le cap symbolique des 100 000 euros. C'est important aussi de remettre ces chiffres dans la discussion, car on imagine souvent que les héritages sont des gros montants pour un nombre important de personnes. En réalité, beaucoup de gens, encore une fois, ne touchent rien, voire très peu. Thierry Aymar.
Oui, exactement. Non, tout à fait. Il y a une inégalité totale par rapport à l'héritage. Hein. Une bonne partie des Français ne toucherait en quasiment rien, et puis d'autres parties, évidemment, touchent beaucoup. Donc c'est un facteur d'inégalité dans l'accès à la propriété immobilière, notamment des jeunes, et je souscris parfaitement. Je vais quand même mettre un bémol au bémol, dans le sens où, effectivement, quand on parle d'une épargne disponible qui dort, là, en tant qu'économiste, je suis un peu obligé de réagir, parce que cette épargne, elle est placée déjà, d'accord? Elle sert effectivement à financer des dettes d'État, du logement social, il y a des livrets bleus. Une bonne partie du capital privé dont vous parlez, c'est aussi de l'immobilier. Et donc ça, les gens habitent aussi dans des maisons, elles ne sont pas transférables comme ça, et c'est très bien. Il faut faire attention aussi au fait que dire cet argent dort, on voit que les grands-parents, quand ils le peuvent le faire, il y a un transfert, vers les descendants de manière massive. C'est souvent les grands-parents qui payent les permis des petits-enfants, qui les emmènent en vacances, qui vont d'ailleurs les chercher à l'école quand ils peuvent. Donc il faut aussi se méfier de dire, cette épargne, elle dort, elle ne bouge pas. Elle est aussi transférée de manière, sous forme de flux, vers les ascendants. Alors c'est pas forcément, il y a beaucoup de donations, faut pas oublier qu'on parle de l'héritage. Mais si on déborde sur la question des flux successoraux, il faut aussi penser que la moitié de ces flux, c'est des donations. C'est-à-dire de choses qui se passent durant la vie active. Donc on reçoit des sommes d'argent. Combien d'entre nous autour de cette table n'a pas entendu parler de jeunes de 30 ans qui ont reçu effectivement de l'argent des parents sous forme de donation pour acheter leur premier appartement? Donc ça existe beaucoup. Donc faut pas considérer non plus que c'est de l'argent statique qui n'aide pas ces jeunes générations. Donc c'était juste un bémol par rapport au fait que l'épargne, elle n'est pas inactive en réalité.
Mélanie Plouvien, un troisième bémol sur les deux premiers. C'est vrai qu'il y a des transferts intergénérations entre les générations qui existent tout au long de l'existence.
Bien sûr, mais comme vous l'avez dit, le patrimoine est très inégalement réparti. Donc tous les grands-parents ne peuvent pas donner à leurs petits-enfants. C'est là le problème. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir en termes... il ne faut pas isoler l'héritage. Et l'héritage doit être pensé
en articulation,
par exemple, avec les protections de l'État, apportées par l'État social. Et... pour revenir à votre question de départ, pourquoi aujourd'hui est-ce tabou? Peut-être que nous sommes foncièrement attachés à la transmission familiale du patrimoine, précisément parce que nous voyons s'effriter les autres protections qui étaient antérieurement apportées par l'État social. Et donc, de ce point de vue, la question se pose quasiment en termes géométriques. Qu'est-ce que nous préférons collectivement? Est-ce que nous préférons des protections familiales, alors qui ont l'avantage de la proximité, mais qui sont inégalement réparties, très très inégalement répartis. Ou est-ce que nous préférons des protections non pas familiales, mais cette fois-ci sociales, assurées en tant que droits sociaux par l'État social, qui, elles, alors ont le désavantage effectivement de l'éloignement, mais qui sont mieux également répartis.
La sociologue Céline Bessière, elle participait à la série documentaire sur France Culture intitulée « Le temps des héritiers ».
On a travaillé sur les successions dans des familles de milieux sociaux très différents, dans des familles dans lesquelles il y a du patrimoine professionnel à transmettre, des entreprises, dans des familles dans lesquelles il y a des biens immobiliers à transmettre. Et là, on a commencé à se rendre compte d'un certain nombre de choses, notamment que les garçons et les filles n'héritaient pas des mêmes choses. Ce qu'on avait observé, c'était que les fils, et surtout les premiers des fils, héritaient davantage des biens à la fois symboliquement et économiquement les plus importants. Les filles reçoivent davantage de l'argent, c'est-à-dire des compensations en argent pour ces biens structurants. Et puis, autre découverte dans les statistiques, on se rend compte que les fils reçoivent davantage des donations, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur héritage de façon anticipée, c'est-à-dire plus tôt dans leur vie, alors que les filles reçoivent davantage des successions, c'est-à-dire la part de leur héritage au moment de la mort des parents.
On a bien compris, hein, grâce à vous deux, les inégalités sociales intergénérationnelles générées par la question de l'héritage, des droits de succession. Mélanie Plouvier, il y a aussi manifestement, on vient d'entendre Céline Bessière, de grandes inégalités là du point de vue des sexes.
Oui, c'est la découverte et le mérite hein, des travaux menés par Céline Bessière et Sybille Golac dans le genre du Capital. Elles ont montré que, alors même que nous sommes, depuis la Révolution française, en régime de partage égal, sous l'Ancien Régime, prévalait la règle de primogéniture masculine, l'essentiel du patrimoine pour l'aîné mâle. La Révolution française casse cette primogéniture en mettant en place le partage égal, autant pour les cadets que pour l'aîné, autant pour les sœurs que pour le frère. Et nous sommes les héritiers de ce partage égal, mais malgré cette règle juridique du partage égal, il reste une distribution genrée du patrimoine.
Et il faut lire ce livre, hein, c'est un travail remarquable dans les études, un travail de sociologie extrêmement, extrêmement fin. Thierry Aymard, une réaction.
Je peux ajouter un mot, on voit le poids des rigidités mentales, en fait, hein, qui perdurent et qui sont des obstacles, justement, à l'évolution législative, à ce niveau. Malgré l'évolution des lois, les mentalités perdurent et c'est très compliqué de les faire bouger.
Alors maintenant qu'on a bien compris que c'était un sujet tabou, que beaucoup de nos concitoyens français ne souhaitaient pas justement aborder de front cette question de l'héritage, comment est-ce que, malgré tout cela, une réforme possible est envisageable ? Pour commencer, qu'est-ce qu'une réforme juste, efficace, Thierry Aymard, des droits de succession et de l'héritage ?
Alors, les débats se focalisent toujours sur un point, c'est la fiscalité. Je pense que c'est justement une mauvaise cible. Il faudrait se baser sur quelque chose, un retour aux origines, en quelque sorte, c'est la réforme du droit successoral, d'accord ? Au lieu de dire, bon, on va vous taxer encore un peu plus, les gens en ont marre des taxes, il y en a de plus en plus, et donc, dès qu'on parle d'une évolution de la fiscalité, c'est tout de suite rejeté par les esprits. Alors, donc, la réforme du droit successoral. Alors, pour revenir, effectivement, sur le thème du libéralisme, il y a certains libéraux, au 19e siècle, qui étaient contre l'héritage, et certains libéraux contemporains le sont aussi. Si je pense à un philosophe qui s'appelle Robert Nozick, qui est un philosophe des droits naturels, pourtant, à la fin de sa vie, donc, il est revenu de manière assez étendue sur la question de l'héritage, et en fait, son point de vue, c'est qu'une propriété légitime, à partir du moment où on l'a constituée soi-même. D'accord ? Et donc, on aurait le droit de léguer à qui on veut, pas forcément à ses enfants, bien évidemment, à qui on veut. Cette propriété constituée par ses propres moyens. Par contre, on n'a pas le droit de léguer quelque chose dont on a nous-mêmes hérité suite, effectivement, à l'appartenance à telle ou telle famille.
Donc, on pourrait léguer à un ami ou un inconnu à qui
nous semble. Normalement, quand on est d'un point de vue libéral, c'est un sujet de consensus. On devrait pouvoir, évidemment, tester, la liberté de tester, elle devrait être reconnue par tous. Et je crois que ça, c'est pas forcément un sujet de débat. Je pense que si on l'imposait, on a le droit de laisser cet argent à nos enfants, mais aussi à quelqu'un d'autre. Mmh. Ça, je pense que ça passerait relativement facilement en termes de réforme, même si on n'ose pas toucher à ce tabou de la famille. Mais, au-delà, évidemment, le problème de fond qui est soulevé dans l'héritage, c'est l'accumulation intergénérationnelle, donc du capital dans les mains d'un nombre de plus en plus restreint de gens. Pourquoi ? Parce que finalement, si j'ai la chance d'avoir un arrière-grand-père qui a construit un fort patrimoine, eh bien donc, il est arrivé dans mes mains. Donc évidemment, génération après génération, on a cette accumulation de patrimoine. Si on ne permet à chaque génération que de transmettre un capital qu'on a constitué soi-même, ben on casse cette chaîne. D'accord ? Moi, j'irais même un peu plus loin. On aurait le droit de transmettre l'usufruit d'une propriété qu'on a constituée nous-mêmes. Parce que finalement...
Et pas la propriété.
Bah, l'ADN du libéralisme, c'est quoi ? C'est que la richesse doit être la contrepartie de sa propre contribution à la création de valeur. Bon, pourquoi voulez-vous que j'ai droit à quelque chose que je n'ai pas créé moi-même ? Donc, on pourrait effectivement faire une sorte de compromis. C'est-à-dire que si je sais, quelqu'un sait qu'il peut léguer l'usufruit d'un capital qu'il a hérité à ses propres enfants, mais pas effectivement la propriété elle-même du capital qu'il a constitué, il a intérêt à entretenir finalement ce capital hérité, parce que ça va constituer évidemment, ça va déterminer le niveau du patrimoine, de l'usufruit, et cet usufruit, il pourrait le transmettre évidemment à ses propres enfants. Et à ce compte-là, on aurait une incitation à épargner, à constituer son propre capital, parce qu'on sait que les enfants peuvent, ou d'autres personnes peuvent avoir le bénéfice de cet usufruit. Donc, incitation à l'épargne. Et en même temps, on casse cette chaîne infernale de concentration du capital de génération en génération.
Et vous renouez ainsi avec la nécessité d'épargner pour investir. Une réaction, Mélanie Pouvet, j'allais dire, sur cette proposition, sa philosophie. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que, dans le fond, la fiscalité, ce n'est pas le bon point d'entrée pour penser une telle réforme ?
En tout cas, c'est aujourd'hui, le problème, c'est que c'est l'unique point d'entrée. Et je pense que nous avons à élargir. La remontée vers le 19e siècle, en amont donc de la mise en place en 1901 de la fiscalité progressive sur les successions, nourrit cette réflexion. Alors, pour réagir aux deux grandes propositions qui ont été ici faites, première proposition proposée par Thierry Aymard, un accroissement de la liberté testamentaire. Donc, il s'agit de jouer, de réformer dans ce cas-là notre droit successoral en restreignant ce qui a été mis en place par la Révolution française, à savoir la réserve héréditaire, le fait qu'en France, l'essentiel du patrimoine, enfin en tout cas une grande partie du patrimoine, aille nécessairement aux enfants, afin de permettre que le futur défunt choisisse par un testament ce qu'il va advenir de ses biens. J'ai d'énormes réserves sur une telle proposition. Dans la mesure où cette liberté testamentaire confère à nouveau un pouvoir du mort sur le devenir, ce qui va advenir de ses biens.
Et donc à Mirabeau, celui qui a les argents, un pouvoir à celui qui détient l'argent.
Exactement. Mirabeau parlait à propos de la liberté testamentaire. Les révolutionnaires français étaient radicalement opposés à l'égard de la liberté testamentaire. Et par exemple, Mirabeau, il voit une forme de despotisme paternel qu'on peut bien voir aux États-Unis, qui est un pays de liberté testamentaire. Voilà, les relations familiales qui sont tenues par est-ce que je vais être dans la fratrie celui qui va hériter ? Est-ce que je vais être déshérité ? Donc il me semble qu'il y a un vrai danger à cette liberté testamentaire qui finalement, maintient l'idée que le propriétaire pourrait décider de ce qu'il va advenir de ses biens pour après sa mort. La question est ensuite de savoir quel est exactement le problème posé par cette liberté testamentaire, le fait qu'elle maintienne un pouvoir de détermination du côté du propriétaire pour un temps où il ne sera plus. Il y a une proposition pour rebondir et aussi faire des propositions. Il y a un cas qui me semble assez intéressant, c'est celui de Marlène Engelhorn, qui est l'héritière de BASF, une des héritières de BASF, qui a hérité il y a 2-3 ans de 27 millions d'euros. Elle s'est retrouvée détentrice de cette somme, qu'elle juge qu'elle est illégitime, c'est-à-dire qu'elle n'a pas travaillé pour recevoir ce patrimoine, et donc elle a décidé qu'elle ne le conserverait pas. Mais elle a fait plus. Elle n'a pas simplement créé une fondation, et elle n'a pas donné, fait selon la liberté testamentaire, elle n'a pas donné ce patrimoine. Non, elle a décidé de se dessaisir de la capacité à déterminer ce qui allait advenir de ce bien. Elle a décidé que ce n'était pas à elle de décider de l'usage de ces 25 millions d'euros. C'est courageux, hein, mais on voit là ce que pourrait être une socialisation. Et concrètement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place une mini-convention citoyenne et elle a laissé ses citoyens décider du devenir de ses biens.
Je vais vous faire réagir sur la socialisation justement de ces successions, de ces legs. Je voudrais juste vous faire réagir par ailleurs à une proposition élaborée par Thomas Piketty qu'il présentait dans Célèbdo, c'était en octobre 2019.
Ceux qui, au départ, ont gagné, gagnent encore. Mais par contre, tous ceux qui ont du mal à accéder à la propriété parce que dans leurs origines familiales, ils ne possèdent pas au départ un capital, le capitalisme, dans sa forme pure, ne réfléchit pas beaucoup à donner plus de liberté et plus d'accès à la propriété pour ces personnes-là. Et donc, moi, je propose un héritage pour tous, où tout le monde hériterait de 120 000 euros à 25 ans. Et c'est quelque chose qui, je pense, permettrait de libérer les initiatives, de rajeunir le pouvoir économique. Alors, certaines personnes s'en inquiètent en disant « Bon, mais quand même, tous ces enfants de classe populaire, est-ce qu'ils sauront quoi faire de ces 120 000 euros ?» Et c'est là que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que ceux qui défendent le libéralisme, c'est un peu à deux vitesses, quoi. Il y a ceux qui héritent beaucoup, là, c'est merveilleux, le libéralisme. Et quand on veut donner de la liberté à tout le monde, avec l'héritage pour tous, là, certains s'en inquiètent.
Thierry Marre, justement, si on tire le fil de cette socialisation de l'héritage, on a entendu la proposition de Mélanie Pouvier, on entend celle de Thomas Piketty. Comment est-ce que le libéralisme aborde intellectuellement cette question-là ?
Juste un point sur la liberté de tester, hein, de donner. Elle existe aux États-Unis, hein, donc en France, ça n'existe pas, mais elle existe aux États-Unis. Sur la question de la socialisation, alors ce terme, on peut y mettre ce qu'on veut. Dans la proposition qui était faite, effectivement, implicitement par Nozick, et que je poursuis ici avec mes humbles moyens. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait alors, de cette propriété dont les enfants ou les héritiers ne peuvent pas avoir finalement ? Ben, forcément, elle est à la société. Moi, je suis un économiste, je la verrais bien financer des fonds d'investissement pour financer les activités entrepreneuriales. Donc, de ce point de vue-là, cet argent, ces fonds, elle pourrait servir à nourrir l'activité économique. Et donc, la notion...
Plus qu'aller vers des individus.
Ce sont les individus, les entreprises, les emplois, c'est l'activité économique. On vit de ça. Donc, il ne faut pas non plus négliger la production avant de penser à la redistribution de ce point de vue-là. La proposition de Piketty, moi, j'y suis hostile. J'y suis hostile parce que, en fait, cette somme, cet accès à la propriété, encore une fois, ce n'est pas la contrepartie, d'accord, de sa contribution à la création de valeur. Et en tant qu'économiste, c'est ce qu'on appelle l'effet Carnegie. Quand je reçois effectivement des sommes gratuitement, ça décourage quoi ? Ça décourage ma capacité à m'investir sur le marché du travail, à développer moi-même de l'épargne, et donc de la production qui me permet d'épargner, et ça me décourage à élever mon niveau de productivité. Vous savez qu'en France, on a un gros problème de productivité. Et donc ça, on s'interroge beaucoup sur ces sources, mais en même temps, effectivement, quand on reçoit beaucoup d'argent, et on le voit dans des cas très concrets que je vois aussi autour de moi, eh bien ceux qui reçoivent beaucoup d'argent, ils ont tendance à vouloir faire le tour du monde, à se donner effectivement des libertés qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas effectivement ces sommes au départ.
Mélanie Pouvier, réaction et conclusion.
Je crois que chacun a le droit à avoir les moyens de sa propre réalisation. Je pense qu'il y a un point de consensus entre Thierry et Marre et moi-même, c'est cette idée que finalement la propriété individuelle légitime se réduit au temps de vie de l'individu. Et que ça veut dire très concrètement que avant et après, ce sont d'autres formes de propriété que nous avons collectivement à inventer.
D'un mot, mais vraiment d'un mot sur la proposition de Piketty, elle est intéressante selon vous ? Vous êtes en désaccord comme Thierry Marre ?
Elle est intéressante. Après, vous voyez, elle conduit à une forme de distribution égale entre les individus. Elle ne conduit pas forcément à une réflexion démocratique sur ce qu'il convient de faire de l'argent des morts.
Merci à tous les deux de ce débat. C'était passionnant. Mélanie Pouvier, vous êtes maître de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes l'autrice de ce livre intitulé « L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine ». C'est à la découverte. Et Thierry Marre, maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé « La société de la régression, le communautarisme à l'assaut de l'individu ». C'est aux éditions de l'Aube. Merci encore à tous les deux.
Merci.